Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit z Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Bonjour, good day, bienvenue au Carrefour de l'Europe, bienvenue au Danemark, bienvenue à Aarhus. Toutefois, si vous êtes français ou francophone, ne cherchez pas Aarhus sur une carte, vous ne trouverez pas, car Aarhus s'écrit Aarhus, A-A-R-H-U-S. Aarhus est la deuxième ville du Danemark et elle est cette année capitale européenne de la culture. Prétexte à bien des festivités et pour nous l'occasion de découvrir Aarhus, les Danois et leur art de vivre et de savoir un peu mieux comment ils se sentent dans cette Europe qui s'interroge sur son devenir. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints au Dock 1, on dit Docken, qui est une immense bibliothèque qui donne sur le port à travers de très jolies baies vitrées. On a la mer à nos pieds et un très immense globe bleu et vert qui nous regarde. Jevnen Munk, elle est libraire. On dit que vous êtes la plus française des Danoises, à moins que ce soit l'inverse. Qu'en est-il ?
Disons que je me sens encore française, mais dans ma famille, ils ne me trouvent pas française. Je suis donc certainement plus danoise que française aujourd'hui.
Martin, 47 ans, ça compte. 47 ans, c'est une vie. Martin Christensen, bonjour, vous êtes consultant en ressources humaines à l'université d'Aarhus. Rina Waller-Simonsen, vous êtes dans le comité directeur responsable de la stratégie d'Aarhus 2017. Stine Biller-Jürgensen, vous êtes professeur de littérature française à l'université d'Aarhus. Elisa Stoffsklund, Je l'ai mal dit, j'en suis conscient, vous êtes étudiante. À vos côtés, Eric Besselin, vous êtes musicien à l'Orchestre Symphonique d'Aarhus. Léa Storen, bonjour, vous êtes médecin, vous avez notamment soigné des Africains au Mali et au Sénégal aussi, ça parle beaucoup à nos auditeurs. Et en fin d'émission, nous serons rejoints par Samara, c'est une chanteuse très connue à Aarhus.
Européen, Carrefour de l'Europe. Sur RFI.
Alors les noms danois sont quelque peu difficiles à prononcer, je l'ai prouvé, pour un français en tout cas, mais par chance, au Danemark, le tutoiement est de rigueur et on s'appelle systématiquement par son prénom. Alors si vous me le permettez, je vais garder le vouvoiement radiophonique qui s'impose, bien évidemment, mais je vous appellerai par vos prénoms, qui aura au moins l'avantage que je n'écorcherai pas vos noms. Petit point de géographie, le Danemark se compose d'une partie continentale au nord de l'Allemagne et d'une multitude d'îles dont l'une abrite la capitale Copenhague. Aarhus se situe sur la partie continentale du Danemark, qu'on appelle le Jutland. Les habitants d'Aarhus aiment leur ville et sont heureux d'y vivre, quoique Geneviève Munk, en tout cas, c'est votre cas. Vous avez adoré découvrir Aarhus et vous y vivez depuis 47 ans, vous l'avez déjà dit. Qu'est-ce qui est si agréable que ça à Aarhus ?
Aarhus est une grande ville qui n'est pas trop grande et on est toujours près de la nature. On a des parcs, j'habite au centre-ville, 5 minutes plus tard, à pied, je suis au bord de la mer, 5 minutes de plus, je suis en forêt. J'adore ça. Et la ville est quand même une grande ville. On n'a pas le temps d'aller voir tous les films, toutes les pièces de théâtre, d'aller écouter tous les concerts, tellement il y en a toute l'année. Donc je trouve que c'est une ville formidable. Et j'aime les Aarhusiens.
Qui sont nombreux autour de cette table. Martine, vous partagez cette idée, ce plaisir de vivre à Aarhus, vous qui n'avez pas toujours vécu ici.
Je suis tout à fait d'accord avec Geneviève. La proximité de la nature et la mer. Et moi, je suis un garçon de la mer. Et alors, être capable de se déplacer sur l'eau, en kayak, et en même temps vivre la vie d'une grande ville, ça me fait beaucoup plaisir.
Eric, vous qui êtes musicien, mais suédois, je n'ai pas encore eu le temps de le dire, donc à l'Orchestre Symphonique d'Aarhus, qu'est-ce que vous aimez dans cette ville ?
C'est la proximité de la nature, bien sûr, et l'ambiance. Je trouve les gens sont très sympas. Et on a une expression qui s'appelle la ville de la sourire, on peut dire ça. Mon français n'est pas tellement bon.
La ville du sourire.
Smiletsby, et puis ça c'est vrai. Les gens ont une tendance de sourire tout le temps, quand on les rencontre. Alors, ça c'est très sympa.
Lisa, vous avez grandi dans une île qui s'appelle Fum, j'ai bien dit pour une fois, et vous avez découvert Aarhus avec plaisir.
Oui, avec grand plaisir. J'ai découvert Aarhus quand mes sœurs, elles ont déménagé ici pour leurs études. Et c'était quand j'avais encore 14-15 ans et j'ai beaucoup aimé la ville, parce que c'est une grande ville, mais Mais elle n'est pas si grande que ça.
C'est une grande ville, on va dire, 300 000 habitants. Alors, c'est une grande ville pour le Danemark. Évidemment, pour les Chinois, il en est tout autrement. Hein, pour les Indiens, bien évidemment. En tout cas, avec vous, Lisa, nous sommes baladés dans la ville. Et je vous ai demandé un petit peu, où est-ce que vous avez envie de m'emmener? Et vous m'avez emmené là. Lisa, on est là dans un café d'un quartier bien particulier de Aarhus. Comment il s'appelle ce quartier?
C'est le quartier latin et on est dans le café Drønfoss qui est là depuis des années. Et le quartier latin, c'est un quartier qui change pas tellement aussi. L'ambiance reste le même malgré tous les changements qui se passent dans la ville sinon.
C'est un quartier étudiant?
Oui, c'est un quartier étudiant parce qu'il y a les étudiants de l'université qui viennent, mais aussi parce qu'il y a le lycée de la cathédrale qui est pas très loin d'ici. Donc il y a plein de jeunes ici. Ouais. On fait tout ici. Moi, j'ai travaillé pour mes études, j'ai dansé, j'ai mangé, je fais tout depuis 10 ans ici.
Alors c'est un quartier avec plein de petites maisons. Il y a un étage, deux étages, guère plus, hein.
C'est ça qui fait l'ambiance, c'est pas un quartier en fer et en verre, c'est vraiment un vieux quartier, on peut dire.
Est-ce que c'est un quartier où on vient plutôt entre amis, plutôt en famille, plutôt...
On peut tout faire ici. Moi, j'amène mes parents ici quand ils viennent me visiter, je sors avec mes amis, j'y vais quand il y a ma nièce qui vient me visiter, donc on peut vraiment tout faire.
S'il fallait le définir d'un mot, ce quartier, qu'est-ce qu'on dirait ?
Jeune aussi, c'est un quartier jeune. C'est un quartier qui est là depuis longtemps, mais qui reste jeune.
À l'image de la ville.
Oui, voilà.
Alors, Stine, Lisa vient de nous dire que le quartier latin, qui fait une référence au quartier latin français, j'imagine, c'est un quartier jeune. Il faut dire que c'est vrai que la ville est très jeune, notamment grâce à son université qui est importante.
Ah, tout à fait. L'université joue un rôle très important dans la ville d'Aarhus et avec ses 40 000 étudiants à peu près.
Ça fait environ, si on rajoute quelques lycéens un peu attardés, ça fait environ 15% de la population.
Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui donne de la vie à la ville. C'est quelque chose que j'ai apprécié énormément en arrivant en Russie il y a 15 ans à peu près. Et évidemment, c'est très appréciable aussi que l'université est pas loin du centre-ville, en fait. Et comme ça, on a beaucoup de facilité à passer du quartier des cafés, par exemple, aller travailler après dans l'université, dans les bibliothèques. Et j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça que les jeunes fonctionnent beaucoup aussi. Et
là, on est au pied du port. Là, l'université, à pied, si on devait y aller à pied, on est à combien?
D'ici, on mettrait 15-20 minutes à peu près.
Cela dit, il existe des Aurussiens qui marchent, mais la plupart font du vélo. Tout autour de cette table, vous faites du vélo, vous avez tous un vélo. Je vois, alors ça ne s'entend pas, mais je vois les têtes qui hochettent, qui sous-entend que tout le monde ici a un vélo, et vous êtes même peut-être venus en vélo les uns les autres. Martine, par exemple, tout le monde est venu en vélo ici. Le vélo, c'est une part importante de l'état d'esprit de la vie des Danois.
C'est la liberté pour se déplacer. On peut se mettre partout dans la ville pendant 10 ou 15 minutes. Je prends ma vélo pour aller travailler et en même temps je peux me baigner dans la mer en rentrant chez moi. Alors c'est vraiment la grande liberté ici.
Attendez, je reprends ce que vous venez de dire. Vous dites que vous vous baignez dans la mer, mais quelle est la température de l'eau?
Ben, juste maintenant il est 13 degrés, mais en février, en janvier, il est 0 ou même moins 2.
Alors c'est-à-dire que vous vous déguisez en plongeur avec des combinaisons?
Non, je me baigne à poil. Pendant toute l'année.
Pendant toute l'année?
Voilà. Même s'il y a du glaçon et des choses comme ça. Voilà.
Même s'il y a quoi?
De la glace.
Glace. Oui. Vous faites un trou et vous plongez. Oui.
Mais on n'y reste pas longtemps. Hein.
Je voulais d'abord parler de Russes, mais on va dire quand même un petit mot avant de parler de ces Danois qui sont quand même téméraires puisqu'ils se baignent dans une eau à 13 degrés, parfois moins. Autour de cette table, vous baignez les uns les autres? Léa, par exemple?
Oui, je l'adore. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a l'accès au sauna. Ah. Et c'est ça qui est important. Okay. Et sinon, on le fait souvent avec l'idée, si on se demande si on va vraiment mourir dans l'eau froide.
Ce qui donne l'occasion de ressusciter, bien évidemment. Rina, vous aussi, vous vous baignez dans l'eau à 13 degrés?
Non, c'est trop froid. tout de même, autour de cette table, une invitée raisonnable. Alors, on va revenir à un moment ou à un autre au cours de l'émission sur ces Danois, leur art de vivre, leur style de vie. Un petit mot quand même sur Aarhus. Quels sont les points d'intérêt importants pour vous, Aarhus? Quand on arrive à Aarhus, ce qu'on découvre assez rapidement, c'est un incroyable musée, un musée d'art moderne. Et je ne vais pas me hasarder à dire en danois comment s'appelle ce musée. Il s'appelle
le musée de l'art moderne, ça s'appelle Aarhus.
Aarhus, avec une formidable, comment on peut appeler ça, un anneau circulaire aux couleurs de l'arc-en-ciel, et on peut se balader à l'intérieur. D'abord, on est très haut sur un point culminant de la ville. C'est particulièrement beau, et la ville change de couleur au fur et à mesure qu'on avance dans cet anneau. C'est une expérience que les uns et les autres vous avez fait. Éric,
pour être honnête, ça m'a pas fait grand-chose. C'était intéressant, mais ça m'a pas fait grand-chose. Mais c'est très beau, si on le voit de dehors. Mais d'être dans cet anneau. Non.
Alors moi je l'ai fait hier en compagnie de Jérémy qui assure la technique. Moi j'ai eu un sentiment d'ivresse en passant d'une couleur à l'autre. Léa, vous aussi, vous avez eu un sentiment d'ivresse?
À peu près, oui. Ce que j'adore, c'est que ça change chaque jour quand on y va, que ça dépend beaucoup de la lumière. Et justement, c'est un truc que j'adore de Aarhus, que c'est une ville lumineuse. Et on le voit vraiment dans ce musée. Peu importe s'il fait gris ou il fait du soleil, ça change chaque jour et c'est magnifique.
Alors, autre point d'intérêt, et j'ai pas eu le temps de tout voir, mais la vieille ville, qui est une ville tout à fait reconstituée. Geneviève, vous pouvez nous en dire un petit mot de cette vieille ville?
On a commencé à un moment, au moment, je pense, où on a commencé à ne plus vouloir les vieux bâtiments. Aarhus les a récupérés brique par brique et a remonté à Aarhus pour donner l'impression de la vie dans les villes du 17e, 18e, 19e siècle. Et maintenant, on a même une nouvelle partie qui est le Danemark des années 1940, 50, 60. Et en plus de montrer la vie qu'on vivait dans ces villes à l'époque, c'est utilisé pour des gens, par exemple, qui ont Alzheimer ou des choses comme ça, et qui se retrouvent comme dans leur jeunesse et qui tout d'un coup revivent. Ça, c'est très intéressant.
Évidemment,
aussi.
Les maisons sont décorées, presque habitées.
Exactement comme elles étaient à l'époque, oui.
Qui a visité la vieille ville autour Rina, vous avez visité la vieille ville? Vous ne vous baignez pas dans l'eau à 13 degrés, c'est d'accord. Mais est-ce que vous avez visité la vieille ville?
Oui, naturellement. Et nous travaillons aussi avec la vieille ville dans le programme de la capitale européenne de la culture.
Alors évidemment, la capitale européenne de la culture, nous y venons. C'est un moment important dans la vie de la ville.
Très important, parce que c'est une année où tout le monde travaillait ensemble.
Alors le thème de Aarhus, capitale européenne de la culture, c'est « Let rethink ». Repensons les choses. Qu'est-ce qu'on essaye de repenser à Aarhus à travers cette année européenne de la culture?
Nous voudrons repenser tout.
Ah, carrément. Donc, on fait un petit point. Les Danois sont téméraires. Ils se baignent dans une eau 13 degrés. Ils sont honnêtes. Quand ils n'aiment pas, ils le disent. C'était Eric tout à l'heure dans l'anneau arc-en-ciel. Et ils sont ambitieux, puisqu'ils veulent repenser le monde.
Et oui, nous voudrons repenser comment nous vivons. Et comment nous faisons les choses. Et pour faire ça, nous travaillons, comme je disais, avec tout le monde, avec les institutions, avec les gens dans les rues qui aussi travaillent en volontaire pour la capitale de culture, avec des entreprises qui font des projets avec les artistes dans les programmes que nous faisons. Et on fait tous un petit peu différent que quand on n'a pas le titre de capitale de culture.
Alors, repenser l'art et la créativité, par exemple, repenser la ville, repenser les valeurs, il y a aussi une dimension européenne.
Mm-hmm. On a le thème de repenser, mais on a aussi des valeurs, des diversités. On va célébrer les diversités et les valeurs de développement durable et la valeur de démocratie. Ça, c'est quelque chose qui en trouve dans tous les projets et tous les événements dans le programme de la capitale de culture.
Alors Eric, vous qui êtes musicien à l'Orchestre Symphonique d'Aarhus, par quoi se traduit pour vous cette année européenne de la culture, pour votre orchestre par exemple?
On a 4 projets cette année avec où l'orchestre peut agrandir un peu. On a invité des musiciens de tous les 28 pays de la communauté européenne.
Y compris les Britanniques, alors. Vous considérez que...
Oui, bien sûr, les Britanniques sont très bienvenus. Et je trouve, moi, personnellement, c'est une petite tragédie qu'avec le Brexit, c'est très dommage. Mais on a invité des gens de partout. On a encore 2 concerts sur cette série. On va jouer la symphonie Leningrad de Shostakovich au début de novembre. Et c'est une symphonie qui est écrite pour célébrer cette ville de Leningrad qui a souffri tellement pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Shostakovich, il a écrit cette symphonie après la guerre. C'est un morceau musical fantastique. Et puis en décembre, on va faire la 3e symphonie de Gustav Mahler. Et moi, dans mon groupe, je joue le basson. On a besoin de 4 bassons dans mon groupe.
Et alors vous êtes tout seul dans l'orchestre?
En décembre, je suis seul parce que l'orchestre est pas très grand maintenant. Mais je vais avoir un collègue de la Lettonie et un autre collègue de la Lituanie. 2 bassonistes de ces 2 pays, ils vont venir jouer. Et c'est une partie de ces projets pour inviter des musiciens de partout l'Europe et jouer cette musique formidable.
Bien évidemment, Rina Valor, il se passe tout le temps quelque chose, tous les jours, à Aarhus, dans le cadre de cette année européenne de la culture. Tous les jours, il y a des événements, des manifestations.
Presque tous les jours, oui. C'est un programme très riche. Il y a quelque chose pour tout le monde dans le programme. Il y a quelque chose pour eux qui aiment bien les danses, et qui aiment bien la musique. Et oui, on a travaillé très, très durement pour développer un programme avec quelque chose pour tout le monde.
Est-ce que cette année européenne de la culture a changé la ville, a changé l'état d'esprit de ses habitants? Qu'est-ce qu'elle apporte?
En effet, oui, c'est pas seulement au niveau, enfin, à grande échelle, en fait, qu'on peut repérer des spectacles plus ponctuels le long de l'année. Je crois aussi qu'à plus petite échelle, il y a pas mal d'activités qui trouvent de ressources dans ce projet et de nouvelles idées émergent de ce projet de manière générale. Il y a une scène littéraire de plus en plus riche, je dirais, et on trouve presque des lectures publiques à tous les coins de rue. Donc je crois que ce sera important et intéressant de voir quel sera l'impact à plus long terme au niveau de la ville comme telle, une fois que les spectacles grande échelle ne seront plus là, peut-être.
Je dis même que ça change la ville quand on devient année européenne de la culture ou finalement pas tant que ça?
C'est-à-dire que si on ne sort pas, ça ne dérange pas. C'est déjà une bonne chose pour certains. Mais si on a envie de sortir, il y a toujours possibilité de faire quelque chose. Il y a souvent, d'habitude. Mais là, au moins, on sait qu'il se passe beaucoup plus. On peut aller à droite, à gauche, et on est sûr qu'on va trouver quelque chose.
Alors, je sais même que la reine, car le Danemark est un royaume, la reine Margrethe a dit qu'elle a une petite résidence ici. Enfin, quand je dis une petite, certainement une belle résidence. Enfin, une belle résidence, voilà, pour pas dire une grande. Et elle a accompagné, elle a dit un petit mot sur Aarhus 2017. Elle a dit repenser, penser nouveau, penser de nouveau, penser à nouveau. C'est joli.
Mm-hmm.
Hein? La reine est une intellectuelle? Qui veut répondre?
Tout à fait.
Oui, mais Martine.
Oui, elle est tout à fait intellectuelle. Elle est francophone aussi, naturellement, puisqu'elle est mariée avec un Français. Et enfin, ça c'est très subjectif, mais je pense que pour la plupart du monde au Danemark, elle est quand même une vraie reine qui, de laquelle tout le monde peut se rassembler d'une manière ou l'autre, bien que représentante d'une espèce d'histoire qui est assez ancienne. Alors.
En tout cas, elle accompagne Aarhus 2017, capitale européenne de la culture. On va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète avant de retrouver nos invités à Aarhus, au Danemark. À tout de suite.
Thank you.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Europeyan.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours au Danemark, à Aarhus, que les Français prononcent Aarhus. Aarhus, capitale européenne de la culture 2017, la deuxième ville du Danemark, une ville jeune, une ville étudiante, où il fait bon vivre, vous l'aurez compris si vous avez écouté la première partie de l'émission. Dans cette deuxième partie de Carrefour de l'Europe, nous allons nous intéresser aux Danois, à leur mode de vie, et au Danemark dans l'Europe, une Europe quelque peu en perte de repères. Je vous représente les invités qui nous ont rejoints au DOC. Hein, on dit Dokken. Geneviève Munk, elle est libraire. Martin Christensen, il est consultant en ressources humaines à l'université d'Aarhus. Rina Valer-Simonsen, elle est directrice de la stratégie d'Aarhus 2017. Stine Bill Jorgensen, il est professeur de littérature française à l'université d'Aarhus. Lisa Stofsklund, encore une fois, j'ai écorché son nom, elle est étudiante. Eric Besselin est musicien à l'Orchestre Symphonique d'Aarhus. Et Léa Strogan, là encore, j'ai écorché son nom, elle est médecin. Et puis, à la fin de cette émission, nous serons rejoints par Samara, une chanteuse très connue à Aarhus. Alors, dans le vocabulaire danois, il y a un mot important qui se prononce plus ou moins comme Hugge, qui s'écrit Hygge, H-Y-G-E, qui synthétise la recette danoise du bonheur, car au Danemark, on est heureux, ou on est en droit d'être heureux. Qui est heureux autour de cette table? Un peu d'enthousiasme. Qui est heureux? Vous levez la main, vous levez la main. Tout le monde lève la main. Tout le monde est heureux au Danemark. On se doit d'être heureux au Danemark. Alors, comment on s'y prend? Comment on s'y prend? Parce que si on regarde le classement des gens les plus heureux, les Danois sont très, 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 très en tête. Ils écrasent tout le monde. Pour vous donner une petite idée, les Français sont en 62e position. Alors, on sait que les Français sont à l'heure, toujours mécontents, mélancoliques et toujours un peu tourmentés. C'est pas le cas des Danois. On a donc beaucoup à apprendre des Danois et on va essayer de prendre, au passage, quelques recettes qui pourraient nous permettre, nous aussi, et vous aussi, les auditeurs du bout du monde, d'être plus heureux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être heureux pour un Danois, Martine?
Être heureux pour un Danois, grande question. Être heureux, c'est d'être capable de vivre ses rêves et en même temps vivre dans un endroit où on se sent assez sécure et où on se sent supporté, bien aimé, être entre amis, même si on ne se connaît pas vraiment, comme ici autour de cette table.
Alors, Geneviève, vous qui êtes française, alors je rappelle qu'au Danemark, tout le monde s'appelle par son prénom. Et donc, comme on est au Danemark, eh ben, habituellement, quand on est ailleurs, je dis Geneviève Munk, qu'en pensez-vous? Là, je dis Geneviève, qu'en pensez-vous, vu qu'il y avait un regard français sur cette vie danoise et cette façon de vivre, ce bonheur danois? Comment ça s'explique?
Je pense qu'on a une tranquillité d'esprit. On a une certaine sécurité d'un côté travail, social, qui est importante. On sait que on ne vous lâchera pas. L'État s'occupera de vous. On n'a pas une égalité totale. Ce serait ridicule. Mais on a une bonne égalité. On s'occupe des gens. On pense aux autres. Et ça me paraît très, très important. Si on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut, on est toujours prêt à repenser les choses pour les revoir d'une nouvelle façon. Et ça me paraît plus très important par rapport aux Français qui vont dire « Oui, si c'est pas comme ça, moi je veux pas ». Là, c'est bon, si c'est pas comme ça, alors comment est-ce qu'on va faire? On va rediscuter de la question, revoir les choses et on va trouver une solution. On en est sûr et comme on en est sûr, on le fait.
Lisa, quand on a 20 ans, être heureux au Danemark, ça veut dire quoi?
Ça veut dire pouvoir prendre son vélo le matin et aller à l'université en 10 minutes. Ça veut dire avoir des cours à l'université gratuits. Ça veut dire être sûr que rien de mal va se passer, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer.
Léa, vous partagez le point de vue de Lisa sur cette définition du bonheur à la danoise?
C'est sûr que c'est important pour un Danois avec la sécurité dont tout le monde a parlé. Je pense que je me suis souvent dit que c'est paradoxal qu'on a un climat très, enfin, horrible.
Il enfin, fait... difficile.
Difficile, difficile, pardon, excusez-moi.
Horrible, n'exagérons pas.
Un peu compliqué. Il fait froid 8 mois sur 12 et il n'y a pas beaucoup de lumière pendant l'hiver. Mais après, je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas mécontent pour cette raison. On est plutôt au contraire optimiste. On ne se rend pas pour ces petits défis de la vie.
Alors Eric, vous qui êtes suédois et donc pas aussi heureux que les Danois, par définition, quelle est la différence entre un Suédois et un Danois quand on parle du bonheur?
Les Suédois ont une tendance de faire des grands problèmes des petites choses. Et avec les Danois, c'est autrement. Ils ignorent quelquefois les grands problèmes. Et ça, c'est quelquefois très bien. Je trouve aussi, j'ai habité à Stockholm, et les gens à Stockholm sont encore un peu plus réservés qu'ici. Et le degré d'humour, comme on dit en français, the sense of humor au Danemark, est très, très haut. La plupart des Danois peuvent rigoler tout le temps à des petites choses, et je trouve ça très important. Une autre chose très importante, c'est qu'il y a un grand degré de confiance. Des gens qui se connaissent pas, on les trust, comme on dit, confiance.
On leur fait confiance.
Fait confiance. Si tu perds ton porte-monnaie dans la rue pédestrienne,
dans leur piétonne,
le truc piétonne, il y a une grande chance que tu vas le retrouver dans la station de police avec l'argent dedans. Ça, c'est formidable. Les gens sont très honnêtes ici et il y a une bonne ambiance en général.
Ouais. Martine, il y a quelque chose qu'a évoqué Eric à l'instant, c'est on est un petit pays, les grands problèmes ne nous intéressent pas vraiment. Est-ce que lorsqu'un Danois regarde le monde, il se masque un peu le visage et il le regarde, il a du mal à le regarder un peu au-delà de la frontière danoise?
D'une manière, on a une histoire où on a appris qu'il ne faut pas croire qu'on peut changer tout le monde, enfin changer le monde en gros. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on essaie de faire des changements là où on peut, et pas, par exemple, conquérir tout le monde. C'est pour ça qu'on est à cette ambiance de pragmatique.
Les Danois sont pragmatiques,
je dirais.
Et réalistes.
De plus en plus, enfin, oui.
Alors, les uns et les autres, vous avez dit quelque chose de très très important, c'est qu'on est rassuré par l'État. L'État joue un rôle très important dans la vie. Les Danois, avec les Suédois, ont inventé la notion d'État-providence qui s'est un peu capillarisée, qui s'est développée dans à peu près toute l'Europe. Cet État, il est un peu remis en cause ou pas, vous allez nous le dire. En tout cas, quand on est Danois, l'éducation est gratuite. Arriver à l'hôpital, ce n'est pas un problème. Enfin, ça peut être un problème de santé, mais vous n'êtes pas maltraité sous prétexte que vous n'avez pas assez d'argent, ce qui est quand même différent par exemple des États-Unis. Quand vous arrivez dans un hôpital, on vous demande pas votre carte de sécurité sociale, mais votre carte bancaire, ce qui quand même change un petit peu les choses. L'État joue un rôle très important dans la vie des Danois. Tout est gratuit, mais en contrepartie, on paye beaucoup d'impôts, plus qu'ailleurs, ce qui ne rend pas, et c'est paradoxal, les Danois malheureux de payer beaucoup d'impôts. Lisa, qui n'en paye peut-être pas encore, des impôts.
Si, je paye mes impôts.
Déjà, en tant qu'étudiante.
Déjà, parce que j'ai la bourse de l'État et je paye des impôts sur la bourse que j'ai, qui constitue des impôts. Donc, je paye des impôts sur les impôts que je reçois. Après, je paye des impôts sur tout ce que je gagne dans mon travail, mais j'ai payé des impôts depuis que j'ai 13 ans, donc j'ai l'habitude, ça me pose pas de questions.
Qui veut rebondir sur le thème des impôts? Martine, par exemple, le fait que, on paye beaucoup d'impôts au Danemark, mais c'est bien, c'est normal, ça permet d'avoir une vie confortable.
Mais c'est aussi une question qui divise la population. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'on paye trop. Moi, personnellement, je paye bien mes impôts.
Et vous êtes heureux de les payer.
Oui. Mais tout à fait, parce que, comme vous venez de dire, il y a des hôpitaux, il y a des formations et tout ça. C'est gratuit et on se sent gardé par l'État avec nos impôts.
Tout fonctionne bien au Danemark. On a beau chercher un truc qui ne va pas, on ne trouve pas. Ça veut dire que c'est bien caché, ce qui ne marche pas au Danemark, Geneviève?
Les choses marchent plutôt bien. Et je trouve, par exemple, qu'au lieu d'appeler ça impôt, on pourrait appeler ça une assurance, par exemple. J'estime que nos 25% de TVA, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on achète quelque chose, il y a un cinquième du prix qui est une assurance, et qu'on réutilise le jour où on va chez le médecin, le jour où on envoie ses enfants à l'école, le jour où ils vont faire des études, ou bien à 65 ans, une folkepension qui est la retraite auquel tout le monde a droit, même si on n'a pas fait autre chose à côté, la folk-pension existe.
C'est-à-dire que même si on n'a pas travaillé, on a le droit à une
tout
pension.
Tout le monde a droit à folk-pension.
Une pension de retraite, oui. À partir du moment, à partir
de 65 ans.
À 65 ans. Oui. Alors, il y a aussi, et vous l'avez un peu exprimé, un respect de l'État, un respect de la chose publique. On est ici au Dauquin, Dauquin en français. C'est une immense bibliothèque. Elle est totalement libre d'accès. On y vient, on circule au milieu des livres. Ça ne viendrait à l'idée de personne de partir avec un livre. Tout le monde fait non de la tête.
Il ne faut pas que vous oubliez que vous êtes dans un pays protestant. Il y a quand même cette morale bien protestante qui fait qu'on se censure soi-même d'une certaine manière. Et je crois que c'est réel, en fait. Et il y a cette autocensure qui joue à beaucoup de niveaux dans la société, finalement.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait rendre un Danois malheureux ? Moment de silence autour de la table. On réfléchit. Éric.
Bière.
Pardon ?
Plus de bière.
Plus de bière.
Ou le team national de football a perdu grand ou quelque chose comme ça.
Le pire, c'est quand elle perd contre la Suède, évidemment. C'est le drame absolu.
Ouais, les Suédois sont les pires, oui, bien sûr.
Je m'adresse aux médecins, c'est-à-dire à Léa. Beaucoup de bonheur au Danemark, mais en même temps, on consomme beaucoup de médicaments tranquillisants. C'est un paradoxe ou pas ?
Oui, c'est sûr. J'ai des amis non-danois de l'Amérique du Sud qui aimeraient bien mentionner le taux de suicide. C'est toujours difficile de savoir si on est en train de, peut-être pas surdiagnostiquer, mais si on a un système qui fonctionne si bien qu'on retrouve plus de problèmes. Mais si je peux ajouter une chose que je trouve intéressante, qu'on en compare avec la Suède, qui est quand même... très proche de notre culture. Et parfois, j'oublie que la Suède, et la Norvège et le Danemark, ce sont trois pays différents. Pourtant, en tant que médecin, il faut mentionner qu'en prenant le pont en Suède du Danemark, on gagne quand même 300 de l'espérance de la vie. Juste parce qu'au Danemark, on a l'habitude de prendre un peu trop de la bière, comme vous avez dit tout à l'heure. On fume trop, on a ces problèmes sociaux. Quand on n'a pas réussi à trouver une solution là-dessus. La croissance de l'inégalité est quand même accentuée.
Éric, un point de vue suédo-danois sur le sujet.
Suédo-danois, les Suédois, excuse mon expression, mais les Suédois sont les Allemands du Nord et les Danois sont les Bohémiens du Nord. Alors les Danois, c'est le joie de vivre, boire un peu trop, fumer un peu trop et tout ça. Mais aussi, je crois que cette idée d'être tellement heureux au Danemark, ça a à faire avec... En Danemark, c'est pas comme il faut de parler tellement beaucoup de ses problèmes. Alors on cache ses problèmes sous le tapis, peut-être. Mais en comparaison avec la Suède, en Suède, les gens, ils se complaintent. Oh, j'ai un problème là, j'ai un problème là. Alors peut-être on a l'impression que c'est pas tellement heureux. Mais au Danemark, c'est pas comme il faut de se complaindre de ses problèmes. C'est peut-être, je sais pas.
Martin, je sens que vous vouliez réagir.
Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, je pense aussi que s'il faut viser un problème au Danemark, c'est la solitude. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls et qui se sentent seuls. Et c'est pour ça aussi qu'à Aarhus, il y a des mouvements où on essaye de faire rassembler des gens pour qu'ils puissent faire quelque chose ensemble. Par exemple, il y a un mouvement qui s'appelle « On mange ensemble », le repas collectif. Et ça, c'est quand même un problème au Danemark parce qu'il y a tant de gens qui vivent leur vie pour eux, un vie seule.
Léa, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste que peut-être, surtout si on compare avec la France, ce que je connais, qu'ici, on a un peu oublié l'importance de la famille. On fait tellement de confiance à l'État et aux solutions de l'État qu'on a oublié, quand on parle de la solitude, par exemple, que ça peut changer des choses si on a une famille forte et si on sait l'utiliser. Ici, on a choisi de mettre l'accent sur... Enfin, l'indépendance et l'individualité.
Carrefour de l'Europe. Sur RFI.
Carrefour de l'Europe, nous sommes au Danemark, nous sommes à Aarhus, à l'occasion de Aarhus, capitale universelle de la culture. Je vous présente rapidement les invités qui sont autour de cette table. Geneviève Munk, elle est libraire. Martin Christensen, il est consultant en ressources humaines. Rina Waller Simonsson, elle est responsable dans le département d'Aarhus 2017. Steinbill Jorgensen est professeur de littérature française. Lisa, elle est étudiante. Eric Obeslin, il est musicien dans le cadre de l'Orchestre symphonique d'Aarhus. Et Léa, elle est médecin. Je ne prononce pas son nom comme ça, je ne l'écorche pas. Alors, tout va bien au Danemark, ou en tout cas, ça pourrait aller bien pire. Néanmoins, le Danemark a été saisi par la vague populiste entre les partis conservateurs et sociaux-démocrates. Petit à petit, le parti d'extrême droite anti-immigration a creusé son sillon au point de devenir le deuxième parti du pays avec environ 20% des voix. Il s'appelle le Parti du peuple danois. Il prône naturellement, comme tous les partis d'extrême droite, le rétablissement du contrôle aux frontières, notamment avec l'Allemagne et avec la Suède. C'est un parti anti-immigration qui remet en question la société multiculturelle qui se développe ici au Danemark, comme dans beaucoup de pays en Europe. Qu'est-ce que signifie la montée en puissance de ce parti ? Alors, le Danemark n'est pas une exception. Évidemment, nous sommes bien placés en France pour savoir que les partis d'extrême droite ont pignon sur rue. Mais qu'est-ce que ça signifie, Geneviève? Comment vous analysez la montée de ce parti d'extrême droite au cours des 10 dernières années, à peu de choses près?
On a dit que les Danois étaient toujours heureux et toujours prêts à accepter les systèmes des autres. Disons que ça n'est probablement pas tout le monde. Et au lieu de réagir comme les Français réagiraient en disant « Ah non !» Je pense que c'est là où on a commencé à avoir un problème. Les gens ont fait un nouveau parti politique pour pouvoir essayer d'aller contre ceux qui ne disaient pas exactement comme eux le voulaient. À mon avis, c'est comme ça que ça a commencé. Plus l'idée de moins d'impôts au départ.
Avec moins d'impôts, qui veut réagir? Lisa, vous êtes étudiante, une vingtaine d'années. Comment vous analysez la montée de ce parti d'extrême droite ici au Danemark?
Moi, je pense que en ce moment, les gens, ils ont essayé la gauche, ils ont essayé de voter pour la droite, ils ont trouvé que rien n'a marché et du coup, il reste une seule option et c'est l'extrême droite. Et je pense que avec l'extrême droite ici, il faut aussi se rappeler que ils sont pour l'État-providence et je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Je pense que ça fait qu'ils ramassent beaucoup de gens qui se sont délaissés par la gauche.
On arrive un peu au terme de cette émission. Comment se sent le Danemark et les Danois dans l'Europe? On peut rappeler, adhésion 1973, mais le Danemark n'utilise pas l'euro. On paye ici avec des couronnes danoises. Le Danemark est dans l'espace Schengen, mais on sent bien que c'est un peu compliqué, qu'il y a l'idée de remettre des frontières entre l'Allemagne et le Danemark, entre la Suède et le Danemark. Et puis, le grand allié des Danois, idéologiquement parlant, les Britanniques sont en train de quitter l'Europe, alors que la France, avec l'élection d'Emmanuel Macron, renoue des liens, semble-t-il en tout cas, assez forts avec l'Allemagne. Donc il y a un couple franco-allemand qui est en train de se resserrer. Le Brexit, c'est le départ des Britanniques. Comment se sentent les Danois dans cette Europe? Est-ce qu'elle leur échappe un petit peu? Qui veut réagir?
J'aurais envie peut-être de lier cette question à la question concernant l'extrême droite, finalement, parce que ce qui est important au Danemark, c'est qu'on a eu quand même une population et une culture très homogène pendant plusieurs centaines d'années, finalement. Et ce qui s'est passé avec le XXe siècle, dans les années 70, c'est qu'il y a eu des travailleurs émigrés qui sont venus de l'extérieur. Et finalement, c'est là que le populisme a trouvé ses bases dans la population, cette insécurité, et c'est une rhétorique qui a été basée là-dessus, finalement, qu'il n'y a plus une unité nationale et qu'il faudrait retrouver cette unité nationale-là. Et donc, il y a beaucoup d'hésitation aussi dans la population en ce qui concerne la construction européenne, ce qu'on appelle la construction européenne, qui d'une part est considérée comme une construction technocratique et d'autre part comme l'Europe des grandes nations européennes. Et c'est là également qu'on va retrouver ce discours sur l'insécurité de l'extrême droite.
Est-ce que le fait que le Danemark soit un petit pays, tout est relatif évidemment, mais 5,5 millions de Danois, environ 500 millions d'Européens, c'est-à-dire un Européen sur 100 seulement est un Danois. Est-ce que ça a une part importante dans la perception que les Danois ont de l'Union Européenne? Qui veut rebondir? Lisa.
Je pense que ça a une importance parce que j'entends souvent que les Danois, ils ont peur de perdre leur voix dans l'Europe. Ils ont peur de ne pas être entendus ou ils ont peur que l'Europe leur absorbe. parce que le pays est si petit.
Geneviève ?
Moi, je pense que, d'un autre côté, depuis le Brexit, les Danois sont plus européens qu'ils n'étaient avant. Parce que tout d'un coup, ils prennent peur. L'Europe, ça n'était peut-être pas merveilleux, mais si on n'a plus l'Europe, ça risque d'être encore pire. Et j'ai vu, par exemple, avec les élections françaises, bon, personnellement, je suis allée voter à Copenhague, 2 fois 8 heures pour aller voter 2 fois, mais je n'étais pas la seule. Les Danois m'ont demandé, est-ce que tu vas voter ? Oui. Ah, c'est bien, heureusement. Et à Copenhague, arrivé là-bas, il y avait beaucoup de Français qui votaient. Il y avait des gens autour qui disaient, alors vous votez, et vous votez bien entendu pas Marine Le Pen. Parce que l'Europe était tout d'un coup devenue plus importante. On avait Brexit, on avait eu peur avec la Hollande, on avait peur à nouveau avec la France. Et il y a tout un passage avant de s'assurer que bon, on en fait encore partie, il y a des choses à changer, mais ça vaut mieux que de ne pas l'avoir.
Écoutez, Geneviève, c'est presque le mot de la fin, mais avant qu'on se quitte, on va faire un tour de table très rapide et vous allez tous me donner une bonne raison de venir à Aarhus en 2017. Alors, évidemment, c'est plus difficile pour le premier. Après, le dernier, il a le temps de réfléchir. Allez, Martine, on commence par vous.
Bon, bien pour un public francophone, moi, je dirais la gastronomie. À Aarhus, il y a eu un développement énorme depuis 10, 15, 20 ans. Alors, venez voir ce qu'on peut faire dans la cuisine.
Geneviève, une bonne raison de venir à Aarhus.
La beauté de la ville et la tranquillité de la vie.
Eric.
Un orchestre symphonique d'une très haute qualité dans un salle de concert, un des plus meilleures salles de la Scandinavie.
Lisa.
Moi, je dirais aussi la nature, donc la mer, les forêts, tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais aussi la gastronomie, donc les festivals de nourriture, tous les développements dans la gastronomie ici.
Léa, une bonne raison de venir où l'on habite à la surface de ce globe, à Aarhus en 2017.
Pour la lumière, on a encore les nuits blanches jusqu'au mi-août, et c'est magnifique.
Rina.
C'est les capitales européennes de la culture qui tirent ensemble la gastronomie, la musique et la nature.
Donc vous faites une synthèse de tout ce qui vient d'être dit, en quelque sorte. Estine, c'est vous qui avez le dernier argument pour convaincre ceux qui hésitent encore à venir à Aarhus en 2017.
Ce sera un argument littéraire et artistique. Je recommanderais aux étrangers de venir à Aarhus pour une manifestation artistique autour de ce qui s'appelle Fresh Eyes, projet lancé par le Centre littéraire d'Aarhus et la galerie Image, basé sur des résidences d'artistes et écrivains étrangers à Aarhus qui sont passés le long de l'année.
Tac. Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe à Aarhus. Merci aux équipes d'Aarhus 2017 et à Visite Danemark. Réalisation Jérémy Besset. Sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe RFI, plein d'infos sur Aarhus. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone via RFI.fr ou les applis mobiles RFI. Elles sont gratuites. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquel, ou que vous soyez à Aarhus, ailleurs au Danemark ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on se quitte avec Samara qui va nous chanter en danois une ballade dansante très connue ici qui a été la chanson qui a gagné l'Eurovision en 1963. Alors ça peut paraître vieux, en réalité elle est très très actuelle, elle est très jolie cette chanson et Samara est une chanteuse très connue ici à Aarhus au Danemark. Merci à tous, au revoir, à bientôt.
Et solsteg i en vandpyt, et lille kindkys af en ven, og se hvordan at livet begynder sit spænd i dit sind. Et sølvfløj fra en trætop, svagt og fat lyd af en kat, en rislen i bæk, en vislen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Duk, hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro. Dagen står pukket ud af sengen og går over solens bro. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og stanser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen. Et sølvfløj i en trætop, en svagt afat lyd af en kat, en rislen i bækken, en vislen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Duk, hvor ligger ingen, jomfru daggry går til ro, dagen står på. Og går over solens bro. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og stanser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven.